France Inter. France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir l'eau si précieuse à la veille de la journée mondiale de l'eau. Quels efforts sommes-nous prêts à faire individuellement pour préserver cette ressource qui se fait de plus en plus rare selon les régions? On va parler ce soir de sobriété, comment ne pas gâcher l'eau toute l'année en général et en période de stress hydrique en particulier. D'ailleurs, sommes-nous bien suffisamment sensibilisés à cette question alors que le plan eau du gouvernement ambitionne de réduire de 10% notre consommation d'eau d'ici 2030. Nous commenterons aussi quelques points de l'étude de l'Institut Terram paru hier. L'eau deviendrait, selon cet institut, source d'angoisse pour près de 2/3 des personnes interrogées. Près des 3/4 pensent que la qualité de l'eau potable se dégrade. Alors pourquoi consommons-nous l'eau comme si nous en disposions en quantité illimitée? Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. J'attends vos questions. Soyez les bienvenus. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avec un premier rappel au standard de France Inter, Noël nous appelle de Savoie. Bonsoir Noël.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Votre question, commentaire, témoignage?
Une question, puis avec un commentaire éventuellement. Oui, une question, c'est que, voilà, bah vous venez de parler d'un plan en eau et puis d'économiser de 10% l'eau d'ici 2030. Moi, je donne un petit truc pour économiser d'ici 5 ans. Chaque jour une ou deux fois aux toilettes, et à chaque fois qu'on tire la flasque, c'est 5 litres d'eau potable, de l'eau pure, qui passe du circuit d'eau jusque et qui va directement dans les égouts. Pourquoi n'utilise-t-on pas de l'eau recyclée pour envoyer dans les toilettes? Alors c'était une belle invention quand on a inventé le water closet, n'est-ce pas? C'était le confort. Mais à l'époque, il n'y avait pas les glaciers qui fondaient, il n'y avait pas changement climatique et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, la prise de conscience que cette eau, on ne peut plus la jeter comme ça, de l'eau potable, de l'eau pure, on ne peut plus la jeter directement dans les toilettes.
Merci Noël, je vous coupe parce que la liaison n'est pas très bonne, mais on a compris l'idée générale. Avec ce soir pour vous répondre, deux invités. Florence Abetz, vous êtes hydroclimatologue, directrice de recherche au CNRS, vous êtes professeure attachée à NormalSup, à l'école normale supérieure, pardon, et vous avez contribué au livre « Dernière limite, apprendre à vivre dans un monde fini », c'est paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Et à vos côtés, Esther Crozer-Delbourg, bonsoir à toutes les deux. Esther Crozer-Delbourg, vous êtes économiste de l'eau, fondatrice de Waterwiser, un cabinet de conseil en stratégie spécialisée donc dans les enjeux de l'eau. Et puis nous passerons un coup de fil un peu plus tard à Catherine Ergoualc, qui est présidente de l'association Comité Citoyen qui agit contre la pollution dans certaines canalisations en PVC les plus anciennes. Alors donc notre auditeur nous parlait de tirer la chasse. Pourquoi gâcher autant d'eau pure, d'eau propre? Je vous pose la question, Florence Abetz, concernant nos réflexes individuels de consommation chez soi, faut-il revoir le circuit d'eau des toilettes et changer l'eau qu'elle ne soit plus forcément la plus potable pour ça?
Oui, alors oui, c'est vrai que les toilettes, c'est une partie importante de la consommation d'eau des ménages, donc l'eau que l'on a chez nous.
C'est 20%,
et c'est 20%
crois,
à peu près, voilà. Donc c'est vrai que c'est très important. Après, il faut bien voir que cette eau, elle est prélevée, mais pas forcément consommée, parce que comme l'a dit Noël, elle revient ensuite par la chasse d'eau dans l'environnement. Et donc, il faudra peut-être faire une petite distinction quand même entre consommation et prélèvement. Parce que finalement, le prélèvement, c'est ce qu'on fait comme pression sur le milieu, c'est-à-dire qu'on va chercher l'eau, on l'extrait des rivières, on l'extrait des nappes et on la fait circuler dans des tuyaux. Mais ensuite, il y a une partie de cette eau qui revient dans le milieu, en tout cas dans les rivières. Et puis, il y a une partie qui va s'évaporer, rejoindre un autre cycle de l'eau. Et donc, en fait, il y a un enjeu à la fois de réduire les prélèvements, mais aussi de réduire la consommation.
Esther Crozer-Delbourg.
Oui, alors, effectivement, Noël a raison sur le fait que c'est beaucoup d'eau, donc si on peut réduire sa chasse d'eau, c'est bien, mais rappelons deux choses. La première chose, c'est qu'on a de l'eau potable dans les toilettes à la base pour des raisons de santé. C'est les agences régionales de santé qui ont dit eau potable parce qu'on ne sait jamais si notamment des enfants pouvaient la consommer. Et puis on rappelle que effectivement, l'eau, c'est véhicule quand même potentiellement les bactéries, donc c'est bien qu'elle soit propre. Et la deuxième chose, si vous voulez économiser de l'eau à la maison, le pommeau de douche, c'est entre 8 et 20 litres d'eau par minute en fonction de ça, en fonction de s'il est vieux ou moderne. Et donc, si vous réduisez votre douche de 1 minute, vous avez déjà économisé entre 10 et 15 litres d'eau par jour. C'est les 10% du plan eau pour l'usager domestique.
En moyenne, combien de litres d'eau consomme-t-on par Français et chaque jour? On le sait précisément, ça?
Oui, en moyenne, on consomme 149 litres d'eau par jour par Français. C'est moins qu'autrefois. C'est quand même 7 fois plus qu'un Français au début du XXe siècle. Et attention, c'est une moyenne. Parfois, vous êtes au-dessus, parfois, vous êtes en dessous. Peut-être intéressant de rappeler qu'aux États-Unis, par exemple, c'est plutôt 380 litres par jour. Donc presque deux fois ça. Et en Inde, on est plutôt à 3 fois moins d'eau par jour, par personne. Donc ça dépend vraiment de où on est, nos habitudes.
Alors, beaucoup de questions sur la consommation chez soi, on ne va pas toutes les faire, mais enfin, plutôt la vaisselle, je vous pose la question, Florence Abbesse, la vaisselle, plutôt avec le lave-vaisselle que le faire à la main.
A priori, le lave-vaisselle est plus économe, mais c'est parce qu'on a perdu l'habitude d'avoir une bassine dans son évier. Voilà.
On va retourner au standard avec Yves, qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Yves.
Oui, bonsoir. Moi, je voudrais attirer l'attention sur la loi qui transfère la gestion de l'eau des communes aux intercommunalités, c'est-à-dire aux communautés de communes. Oui. Parce que ça veut dire que dans une même intercommunalité, toutes les communes vont être gérées par le même gestionnaire, par le même fournisseur. Ça signifie concrètement que les communes qui sont en régie devront passer par la gestion de la commune la plus forte, qui en général a un contrat avec une société industrielle comme Veolia ou La Sor.
Et donc votre question, que je saisisse bien la question?
Bien la question, c'était que va-t-il se passer? Parce que forcément, dans un village qui est en régie, on ne paye pas très cher, parce que c'est bien géré, parce qu'il n'y a pas trop de frais administratifs, et il n'y a pas de publicité surtout. Et à partir du moment où l'on va être géré par un industriel, eh bien forcément, il va appliquer les coûts qu'il applique dans toutes les communes où il gère, parce que lui, il a une administration, il fait beaucoup de publicité, il a des véhicules, il a des techniciens un peu partout, et des commerciaux et tout ça, et des marcheurs. Donc, il faut payer tout ça, et ça veut dire que les communes qui étaient en régie avec des citoyens qui ne payaient pas beaucoup l'euro, vont devoir payer beaucoup plus cher.
C'était merci.
C'était ça le sens de mon intervention, qui n'est
merci.
Pas vraiment une question.
Merci de ce témoignage. Je vais la soumettre à l'économiste de la soirée, Esther Crozer-Delbourg. Je rappelle que vous êtes économiste de l'eau, de l'influence des fournisseurs qui feraient grimper la facture dans les communes, dans les communautés de communes en tout cas.
Oui, alors on ne peut pas généraliser parce qu'effectivement, on ne sait pas forcément si le fournisseur va être plus privé. Ça peut tout à fait revenir à une régie publique. Et effectivement, le prix de l'eau aujourd'hui dépend de plein de choses. Maintenant, on ne peut pas tirer de généralité sur le fait que ça sera forcément moins bien géré ou forcément plus cher, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, on a un système très spécifique. On a plus de 10 000 services de gestion d'eau. C'est énorme quand on compare à l'Italie ou à l'Espagne, qui en ont plutôt entre 20 et 50. Donc notre système est très spécifique. Pour être honnête, il est parfois très complexe à comprendre. Donc je comprends l'inquiétude. En revanche, il ne faut pas forcément se dire que ça va forcément être moins bien ou beaucoup plus cher.
Florence Herbette, vous souhaitez réagir?
En fait, le constat a été fait dans beaucoup de grandes villes que le passage en régie avait été bénéfique, notamment parce que les investissements sur la préservation des tuyaux d'eau étaient meilleurs, du coup, et donc il y avait moins de fuites, etc. Le prix de l'eau lui-même, honnêtement, il n'est pas toujours très cher, et en fait, on a surtout un manque d'investissement. Voilà. Et en fait, c'est surtout dans les zones un petit peu rurales où il y a une densité d'habitat plus faible que là, c'est économiquement parfois plus intéressant.
On va insister là-dessus, voilà. Justement. Le coût de l'eau, en fait, il varie aussi selon les régions. Pourquoi la facture est-elle moins chère en Occitanie ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'en Bretagne?
Alors déjà, est-ce que les auditeurs savent combien ils payent leur eau? En général, c'est très rare que les gens le savent.
En plus, payer l'eau, on va regarder sur la facture, hein, mais entre les infrastructures et le coût du liquide, on ne voit pas bien où se situent les frais. Alors, c'est souvent pour les infrastructures, en fait.
En fait, 80% de votre facture d'eau, elle est à peu près fixe, et le 20%, il est variable. Aujourd'hui, c'est un modèle qui ne marche plus du tout, parce qu'effectivement, il faut moderniser nos infrastructures. On utilise beaucoup plus d'eau qu'avant, il y a beaucoup plus de polluants à traiter, etc. Donc, le 80-20 sur la facture ne marche plus. S'il y a des différences de prix aujourd'hui, c'est parce que, bah, vous l'avez dit, historiquement, ce n'est pas forcément les mêmes gestionnaires, ce n'est pas forcément les mêmes contraintes. Aujourd'hui, attention, en fait, l'eau n'a pas de prix. En fait, le seul prix de l'eau, ce sont les infrastructures qui nous cherchent qui nous permettent d'aller la chercher, de l'assainir, de la traiter, etc. Mais l'eau en elle-même n'a pas de prix, elle n'est pas valorisée en fonction de sa rareté. Donc, pour exagérer le fait, un litre d'eau dans une région sèche en France a en fait la même valeur qu'un litre d'eau dans une région abondante en France.
Ça veut dire qu'on ne paye pas l'eau, le liquide, à sa juste valeur?
Le prix de l'eau est très très faible en France. C'est vrai que parfois on a du mal à s'en rendre compte parce que c'est évident que pour les usages domestiques, l'eau doit rester accessible. C'est un droit humain reconnu par l'ONU. Mais c'est vrai qu'on ne la paye pas assez cher, en tout cas pas assez cher pour moderniser nos infrastructures. Et après, tout le problème du prix de l'eau économique, c'est-à-dire l'eau qui sert les industries et l'agriculture, qui lui va être intégré dans un process économique qui va ensuite créer de la valeur et être margé. Et là, il y a un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on paye le pétrole, on paye le gaz, mais l'eau, on ne la paye pas. Donc, elle n'est pas valorisée. Souvent, du coup, on ne l'utilise pas forcément très bien, ni au bon endroit, ni au bon moment.
Ça veut dire que vous aimeriez voir l'eau avec un statut de bien économique, avec une utilisation qui serait donc, du coup, peut-être mieux encadrée?
Oui, il faut prendre des pincettes. Attention, on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut financiariser l'eau. Jamais. En revanche, le fait qu'on ne lui reconnaisse pas de statut économique fait qu'on ne la mesure pas, on ne la compte pas, on ne la gouverne pas assez, on ne l'encadre pas, et donc forcément elle n'est pas assez tarifiée. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut doubler ou tripler le prix de l'eau pour les agriculteurs ou les industriels. En revanche, aujourd'hui on ne peut pas continuer dans le système dans lequel on est. Donc oui, reconnaître une forme de statut économique quelque part, quand on utilise de l'eau pour produire un yaourt que je mange ou un vêtement, eh ben, est-ce que je dois considérer que cette eau devrait être presque gratuite? C'est
pas
évident.
Parce que les sociétés, en fait tout ce que l'on fabrique, c'est à base de l'eau au final.
Tout nécessite de l'eau. Je mange jusqu'à 3 à 4 000 litres d'eau par jour parce que moi j'adore la viande.
Il faut expliquer ça. Je mange 3 à 4 litres d'eau, il faut l'expliquer.
Absolument. En fait, l'empreinte eau, c'est l'empreinte de tout ce qu'on a besoin en eau pour produire tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait. Donc, le textile à travers le coton demande de l'eau pour irriguer le coton. Une viande, un morceau de bœuf, évidemment, demande de l'eau pour être cultivé, comme du maïs, tout comme les semi-conducteurs dans nos téléphones, tout comme une requête ChatGPT demande de l'eau pour refroidir les serveurs, etc. Et en fait, cette empreinte eau, c'est un peu le même concept que l'empreinte carbone. Il faut la mesurer. On ne la mesure pas encore assez aujourd'hui. Et quand on la mesure, on se rend compte que dans le monde, 90% de nos usages de l'eau, ils servent à produire des biens économiques.
Et ce que l'on boit, finalement, n'est rien par rapport aux 85% qui nous servent, cette eau qui nous sert à produire. On va retourner au standard 01 45 24 7000. Véronique, vous nous appelez de l'Aisne. Bonsoir Véronique.
Oui, bonsoir. Merci pour ce sujet sur l'eau qui est effectivement indispensable à notre vie parce que sans eau, eh bien, on ne vit pas. Et un des plus grands progrès que nous avons eu, c'est d'avoir de l'eau qui, et on le voit avec les pays africains, l'eau qui arrive directement dans votre cuisine, pratiquement sur votre table, sans qu'on soit obligé de faire la corvée d'eau et d'aller chercher malheureusement des bouteilles d'eau. Sauf que la question, c'est l'eau qui arrive et qui devrait être pure, qui devrait être sans pesticides, sans insecticides, sans nitrates, sans phosphates, eh bien, il y a des régions, et dans les régions de grande agriculture, où justement cette eau n'est pas pure. Et donc on ne peut pas savoir, si cette eau, elle est bonne pour la santé ou elle n'est pas bonne. Même s'il y a des examens, est-ce qu'on peut savoir si quelle est l'implication de l'eau sur notre santé? Et qui, finalement, on paye cher l'eau pour justement les installations, pour les changements des tuyaux, mais aussi on paye pour, après l'eau qu'on va rejeter, des stations d'épuration. Mmh. Et donc, chaque particulier fait des efforts là-dessus et le prix est quand même pour... chaque ménage est quand même assez cher, puisqu'il y en a qui arrivent à payer jusqu'à 800 euros par an pour ça. Eh bien, c'est aussi cette pollution. Est-ce que la part des agriculteurs, quelle est la part sur cette pollution et qui paye cette pollution?
Merci beaucoup.
Les agriculteurs payent cette pollution.
Merci de ce témoignage et de cette série de questions. Je vais me retourner vers Florence Abetz, qui est hydroclimatologue, directrice de recherche au CNRS. Et je précise cette étude de l'Institut Terram qui nous dit cette semaine que près des trois quarts des Français pensent que la qualité de l'eau potable se dégrade. Florence Abetz, est-ce que les Français ont raison de s'inquiéter?
Bon, le fait est que maintenant, on détecte dans l'eau potable des éléments qui, effectivement, ne devraient pas y être. Avant, ils y étaient peut-être aussi, mais on ne le savait pas forcément. Et malheureusement, il y a beaucoup de pesticides, de PFAS et autres éléments qui sont, dont il est très difficile de
les
traiter.
Les PFAS, ce sont les polluants éternels.
Les polluants éternels, hein. Excusez-moi. Et que l'on retrouve malheureusement dans l'eau du robinet parce qu'elles sont dans l'eau brute et parce qu'elles sont très difficiles à enlever. Donc effectivement, c'est un problème. Et c'est un problème général de protection des milieux, si vous voulez.
Et notre auditrice nous demandait, mais comment savoir si l'eau du robinet, chez nous, comme elle arrive très facilement, comme le soulignait cette auditrice, comment savoir si cette eau, dans quelle mesure cette eau est véritablement saine?
Donc en fait, vous avez normalement des contrôles de la qualité chimique de votre eau et vous pouvez trouver sur votre facture d'eau ou sur Internet hein, les mesures de qualité de l'eau. Cependant, tous les éléments ne sont pas toujours mesurés et donc on ne peut pas être 100% sûr. Et de plus, en fait, il faut bien voir que la notion de qu'est-ce qu'est une eau potable a tendance à, malheureusement...
Ah, c'est la loi, c'est la loi. La loi nous garantit que l'eau qui arrive chez nous est saine et potable pour tous.
Oui, mais qu'est-ce qu'une eau potable? Par exemple, certains produits et métabolites de pesticides ont été à un moment déclarés comme dégradant l'eau potable à une certaine concentration. Et puis,
et l'Europe a dit autre chose.
Et ensuite, la concentration a été multipliée par 5. Donc voilà.
À propos de la pollution de nos eaux, nous sommes en ligne à présent avec Catherine Ergoualc. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'association Comité Citoyen, une association qui agit contre la pollution au CVM dans certaines canalisations en PVC. Hein, pollution au CVM, c'est la pollution au chlorure de vinyle monomère, c'est un peu du plastique hein, issu du PVC, un gaz cancérogène. Or, dans la Sarthe où vous habitez, eh bien, vous avez découvert, il y a 10 ans, que votre eau du robinet a été polluée au CVM. Comment d'ailleurs avez-vous découvert cette pollution chez vous? Dans l'eau de votre robinet?
Je ne suis pas toute seule. Plusieurs membres en fait, de notre association ont eu une analyse d'eau à leur robinet effectuée par le laboratoire agréé. Et donc, le résultat de cette recherche était très mauvaise. Donc, ensuite, en tant qu'association, nous avons cherché des informations au plan local, au plan départemental. Et désormais, nous avons collecté des données nationales.
Et ça concerne donc les canalisations en PVC qui sont anciennes, hein, celles qui datent des années 80 et avant. D'après vous, combien de foyers seraient concernés en France?
Le nombre de foyers, ça...
On va parler en kilomètres, là, peut-être en kilomètres de canalisation.
Alors, le ministère de la Santé estime qu'au moins 15% des 900 000 kilomètres de canalisation qui constituent les 23 000 réseaux de distribution d'eau, exactement, sont à risque CVM.
Bah, ça fait plus de 100 000 kilomètres quand même de canalisation. Oui. Aujourd'hui, donc encore, vous faites bouillir votre eau du robinet pour avoir de l'eau potable. Comment réagit dans votre département l'Agence régionale de santé dans la Sarthe?
L'Agence régionale de la santé continue à procéder à des analyses, mais ça avance avec une grande lenteur. Les services d'eau manquent de personnel, l'Agence régionale de santé également, pour faire mener à bien toutes les investigations. Donc, en fait, les abonnés continuent à boire une eau qui n'est pas réglementairement potable.
Ça veut dire que vous dénoncez une sorte
de manque.
Il y a un peu de manque de transparence de la chaîne, de l'ARS jusqu'au ministère de la Transition écologique, peut-être?
Non, au ministère de la Santé. Il y a un manque d'information du public. Parfois, l'ARS donne des recommandations sanitaires farfelues, du genre « laissez couler votre eau avant de la consommer ». Oui. C'est hors de propos. Et on ne peut pas dépolluer soi-même sa propre eau. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire et de l'environnement en France, recommande de faire bouillir l'eau pour tous les usages alimentaires si la limite réglementaire est dépassée.
Une dernière question, quelles sont les conclusions des derniers prélèvements chez vous? Est-ce que ça s'arrange ou pas?
Alors, écoutez, je ne vais pas parler en mon nom personnel parce que ce n'est vraiment pas le sujet. Il y a énormément de gens concernés dans ma commune, dans mon département et dans toute la France, et voire au-delà, parce que c'est une pollution qui est recherchée depuis 1998 et qui est réglementée depuis 1998. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a découvert. Là, maintenant, 27 ans après, puisque nous sommes en 2025, qui est informé de ces pollutions? Peu de gens. Et nous, c'est ce que nous demandons. Nous conseillons aux abonnés de questionner leur préfet, leur maire, le responsable de leur service d'eau et l'ARS, évidemment, l'Agence régionale de santé de leur département, et de leur demander de pratiquer une analyse d'eau à leur robinet. C'est la seule chose à faire pour attester que l'eau est indemne de CVM ou pas.
Eh bien, merci. Je crois qu'en France, l'analyse du chlorure de vinyle monomère, ce CVM dans l'eau du robinet, je crois que l'analyse est systématique depuis 2007. Merci beaucoup, Catherine Elgouac, de ce témoignage. La qualité de l'eau, nos gestes pour préserver la sobriété concernant l'eau, on en parle dans le téléphone sonne jusqu'à 20h.
France Inter, le téléphone sonne.
Je vous retourne la question, Florence Abetz, hydroclimatologue. La crainte au robinet sont donc les résidus plastiques, médicamenteux, les PFAS, vous en parliez tout à l'heure, ces polluants éternels. Est-ce qu'on connaît précisément les proportions de ces résidus dans l'eau du robinet? Est-ce que ça apparaît clairement sur la facture, tout ça?
Ça ne peut pas apparaître clairement sur la facture, hein. Ça apparaît sur les analyses quand ces mesures sont faites, mais effectivement ces mesures ne sont pas faites tout le temps et elles sont parfois hors de portée des laboratoires, hein. Il faut bien voir que quand même on est sur des concentrations très faibles. Le problème c'est l'exposition, c'est-à-dire que la concentration est très faible et on peut être exposé de façon continue. N'oublions pas, c'est un collègue de comité de bassin qui disait ça, qu'on ingère par l'alimentation certainement plus de produits toxiques que par l'eau.
Mais comment protéger l'eau de la pollution? Ça passerait des vous parliez des bassins, les bassins de captage, ça
exactement.
Doit commencer dès ici.
Exactement. En fait, l'idée, c'est que l'eau, on va la prélever sur des aires d'alimentation qui sont en général des zones un petit peu plus préservées, mais sur lesquelles il peut y avoir des pratiques quand même polluantes. Et aujourd'hui, il y a une demande d'énormément de producteurs d'eau potable qui est de protéger, d'avoir des normes sur les pratiques, notamment les pratiques agricoles. Donc, c'est pas de pesticides sur les aires d'alimentation de captage, parce que tout simplement, ces produits s'accumulent dans les sols et finissent dans l'eau. Et on trouve tellement de types de molécules différentes qu'on ne sait plus comment les traiter.
01 45 24 7000, la qualité de l'eau, nos gestes pour préserver cette ressource. On en parle jusqu'à 20h avec Fred qui nous appelle de Cluses. Bonsoir Fred.
Bonsoir.
Votre question ou votre témoignage?
C'est juste un témoignage, c'est que en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai construit une maison plutôt écologique et j'avais dans l'idée de mettre un bassin, enfin une cuve d'eau de pluie spécifique à l'alimentation de mon jardin et des WC. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait un circuit complètement indépendant avec juste 4000 litres d'eau de pluie, donc 4 mètres cubes dans mon jardin. En souterrain, ça me permet d'avoir une autonomie complète pour l'année, pour mes WC et mon jardin en arrosage.
Eh bien, merci de ce témoignage. Esther Crozer-Delbourg, je rappelle, vous êtes économiste de l'eau. Peut-on devenir sérieusement plus sobre à la maison sans énormes contraintes? C'est possible, ça aussi?
Oui, absolument. En tout cas, c'est ma conviction. On a déjà parlé tout à l'heure du fait qu'une minute de douche en moins, c'était presque 15 litres d'eau économisée. On sait que de ne pas rincer ses assiettes et de les mettre directement au lave-vaisselle, c'est beaucoup d'eau économisée aussi.
Ne pas rincer ses assiettes dans le robinet?
Dans le robinet. Moi, je les ai toujours rincées parce qu'on m'a toujours appris à le faire.
cadeau.
Voilà, c'est ça, mais en fait, exactement. Mais pourtant, on sait qu'on économise avec un lave-vaisselle plein plus de 7 fois la quantité d'eau si on ne les rince pas. Et enfin, effectivement, alors la captation des eaux de pluie quand vous êtes en maison, c'est une très bonne chose. Et je rajouterais que la loi vient d'arriver et qui vous permet en fait de récupérer les eaux grises. Alors, les eaux noires, c'est celles des toilettes, et les eaux grises, c'est celles qui viennent de toutes les, tous les processus de lavage, donc votre machine, et etc. La douche, ça c'est des eaux grises, et donc on peut désormais les récupérer au sein des maisons. Avant, c'était interdit, et vous pouvez les utiliser avec un nettoyage, évidemment avec quelque chose qui est dédié à ça, pour arroser votre jardin ou pour les toilettes. Et donc ça, ça fait énormément économiser d'eau aussi, et on ne dépend pas de la pluie pour ça.
Florence Abetz, réutiliser nos eaux usées, est-ce toujours une bonne idée ?
Oui, alors en fait, on peut se poser la question, parce que finalement, si on consomme autant d'eau, même si elle vient directement de la pluie et pas du robinet, c'est toujours une consommation. La différence qu'on peut avoir là, c'est que si les gens, ils gèrent leur cuve, ils se rendent compte des volumes et ils peuvent peut-être être sensibles au volume utilisé. Mais il faut bien voir qu'on remplace une ressource par une autre. On ne fait pas forcément d'économie à ce niveau-là. Donc, il faut toujours faire attention. Hein, c'est un petit peu difficile, la notion de sobriété. C'est pas uniquement remplacer une ressource par une autre. C'est pas non plus complètement de l'économie. La sobriété, c'est simplement consommer ce qu'on a besoin.
Des astuces pour réduire notre consommation d'eau. Gaëtan en a une. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir.
Merci de nous appeler. Dites-nous.
Mais quand l'eau arrive chez nous avec le fournisseur, avant le compteur, elle a 3-4 bars de pression. Et moi, j'ai installé un régulateur de pression. Je peux, avec une petite molette, régler la pression de toute l'eau dans toute la maison. Et je l'ai réglé à 1,25 bar. Et j'ai installé les bons robinets, des bons pommeaux de douche adaptés aux basses pressions. Et je réduis considérablement ma consommation d'eau dans toute la maison. Ce qui fait que dès qu'on ouvre un robinet pour se laver les mains, au lieu d'utiliser 3-4 litres d'eau, on utilise l'équivalent d'un verre. Mm-hmm. Quand on prend une douche, on est à moins de 10 litres. Et le jour, on a besoin d'un peu plus de pression pour remplir, je sais pas, un gros réservoir. Moi, j'ai pas de piscine, c'est pas mon cas. Mais on peut facilement, en tournant la molette, remonter à la pression d'origine du fournisseur.
Merci beaucoup de cette astuce, on va la noter, on va la garder par-devers nous, comme on dit parfois. Esther Crozer-Delbourg, économiste de l'eau. Le régulateur de pression, ça semble efficace ?
Oui, c'est absolument génial. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi des mousseurs d'eau. Il y en a qui peuvent s'installer très rapidement sur votre robinet, ça coûte pas grand-chose dans la plupart des magasins. Une expérience intéressante a été faite à Dunkerque, où ils ont mis en place une tarification progressive, c'est-à-dire plus vous consommez, plus vous payez. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout d'un an, la consommation de la ville avait environ baissé de 10%. Mais ce qui avait joué, c'était pas le prix. Parce que finalement, l'économie, ce que les gens devaient payer en plus représentait sur une année à peu près 20 euros, ce qui n'était pas suffisant pour faire baisser la consommation. Ce qui a fait que les gens consommaient moins, c'est d'abord d'avoir été sensibilisé au sujet. Donc finalement, quand on sensibilise et qu'on communique, ça marche. Et ensuite, la ville, il me semble, a distribué des mousseurs d'eau dans la plupart des quartiers. Et un mousseur, ça réduit d'environ 40 à 60% votre débit au robinet. Et voilà, et ça c'est, encore une fois, les 10% sont facilement atteignables à la maison.
On va aller à Mayotte, où l'on connaît les problèmes d'eau récurrents à Mayotte depuis de longues années. Léopold nous appelle de Mayotte. Bonsoir Léopold.
Bonsoir.
Quel est votre témoignage ou votre question ?
Alors, mon témoignage, comme vous venez de le souligner, c'est exactement ça. Depuis longtemps, on a des problèmes d'eau et ça risque de ne pas s'améliorer avec la crise, avec le cyclone qui est passé il n'y a pas très longtemps. Donc là, on s'est battu pendant un moment pour avoir des bouteilles d'eau. Il y a de l'eau quand même qui arrive.
Il y a de l'eau, mais pas tous les jours. C'est toujours le cas à Mayotte, oui, c'est ça.
C'est exactement ça, pas tous les jours. Par exemple, moi j'ai eu une coupure d'eau hier, elle est revenue aujourd'hui à 18h.
Je peux vous demander si vous êtes à Mamoudzou, le chef-lieu, ou vous êtes dans les hauteurs de la campagne ?
Non, je suis à Mamoudzou, suis dans Kassonzou 2 exactement, c'est-à-dire une commune de Mamoudzou. Mmh. Ouais.
Et donc, quelles sont les démarches que vous avez fait des démarches, qu'attendez-vous aujourd'hui concernant cette eau qui arrive au compte-gouttes, j'allais dire ?
Non, mais en fait, c'est même pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que derrière, on nous fait payer quand même une consommation et une eau qu'on n'a pas réellement de potable. Mm-hmm. Parce qu'on nous dit qu'elle est potable, mais moi, je viens d'ouvrir, l'eau est sortie toute chargée. Donc, il faudrait la faire couler un bon moment avant qu'elle ne devienne claire.
Merci de ce témoignage, Léopold, à Mayotte. Ça fait plusieurs fois, Florence Abetz, que l'on entend ce petit réflexe de faire couler l'eau assez longtemps pour faire évacuer je ne sais quoi, est-ce que c'est un bon réflexe ?
Alors non, hein, enfin, la plupart des gens n'ont pas du tout besoin de faire ça. Par contre, c'est vrai que certains produits présents sont volatiles et peuvent du coup partir. Et en tout cas, il y a certains polluants qui sont liés au fait que justement l'eau baigne trop dans les tuyaux. Là, à Mayotte, c'est plutôt effectivement le fait que les tuyaux ont été mis à sec et donc ont besoin de recirculer. Et c'est vrai que la qualité de l'eau d'un réseau qui n'est pas tout le temps maintenu en pression, elle est beaucoup plus difficile, c'est vrai. Par contre, il y a des pays qui ont réussi à gérer, à avoir une bonne maîtrise de l'eau, de réseaux malgré tout qui ne sont pas complètement réguliers dans la journée, mais qui arrivent à gérer des tours d'eau. Et donc, en cas de pénurie, en fait, il y a aussi des façons de gérer plus efficacement la pénurie. Et peut-être que là, on doit encore apprendre à ça.
Esther Crozier-Delbourg, je disais ce matin que les Français seraient prêts à payer l'eau plus cher pour améliorer sa qualité. Vous le disiez, hein, finalement, le liquide, l'eau, on ne le paye pas très cher. Il faut s'attendre à ce que ça monte.
Oui,
les prix montent.
Oui, ça va monter, mais attention, on est quand même sur des prix assez bas. Hein, pour donner une idée, déjà, on a parlé de factures qui, effectivement, à l'année, sont entre 600 et 800 euros quand vous avez une consommation, on va dire, standard de 150 litres par jour par personne. Peut-être rappeler que, par exemple, si vous buvez vos 1,5 litre, 2 litres par jour avec l'eau du robinet tous les jours pendant un an, vous aurez dépensé moins de 3 euros. Versus, effectivement, moi, une eau minérale que j'ai achetée hier à la gare qui valait 3 euros le litre. Voilà, on se rend compte que finalement, il y a quand même un sujet sur l'eau minérale, excusez-moi, sur l'eau potable qui est très peu chère. Il faut qu'elle augmente, pas nécessairement pour venir nous contraindre, mais simplement, un, parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir investir. On n'arrête pas de dire qu'on a beaucoup de fuites dans nos canalisations en France, donc il faut de l'argent pour ça. Mais aussi pour qu'on se rende compte que finalement, l'eau a une vraie valeur et on prend conscience de cette valeur quand on n'en a plus, en général. Donc c'est pour ça que dans les Pyrénées-Orientales, on se dit, il faut absolument trouver l'argent pour pouvoir venir leur apporter de l'eau pour que plus jamais une seule commune n'ait besoin d'être abreuvée en eau minérale, en bouteille, parce que c'est pas...
Mais c'est un réflexe, la moitié des Français ne boit de l'eau que en bouteille.
Oui, parce que alors on a tous bu de l'eau en bouteille, parce que la première chose qu'on recherche dans l'eau, c'est du plaisir et c'est du goût. Et en général, quand les gens vont sur de l'eau minérale, c'est parce qu'ils consomment autre chose. Ils consomment pas nécessairement un substitut de l'eau, mais ils vont consommer un goût. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de marques. Ce qui est incroyable, c'est finalement, quand on consomme une eau minérale française, qui en a fait son exception, si on se balade dans le monde entier et qu'on achète une bouteille d'Evian, il y a quelque chose d'aberrant à se dire qu'on consomme les ressources d'un pays, etc.
Très loin,
ça n'a pas de sens, mais c'est avant tout ça qu'on cherche. Et d'ailleurs, on voit maintenant une substitution, que les gens, d'ailleurs, en ont un peu marre de boire de l'eau, mais qui vont aller boire des sodas, des jus, etc. Donc, pour moi, c'est pas substituable, l'eau du robinet et l'eau minérale, surtout quand on voit que qu'il y a un facteur de pratiquement fois 1000 sur les prix. En fait, l'eau minérale est un bien de luxe, mais on la boit pour se faire plaisir. Bon, et quelque part, pourquoi pas.
Catherine est en ligne de Saint-Nazaire. Bonsoir, Catherine.
Oui, bonsoir. Moi, j'appelle sur un thème sur la responsabilisation de tous, que ce soit les professionnels. On sait par exemple qu'il y a certaines cultures qui exigent beaucoup d'eau, mais ça continue. Et aussi, en parlant de bonnes et de mauvaises pratiques, que ce soit les professionnels ou les citoyens, moi je suis étonnée qu'on n'encourage pas plus les professionnels et les citoyens, ceux qui font attention, parce que moi j'ai fait vraiment gaffe ces dernières années et je continue à faire attention, à gérer ma consommation d'eau, de gaz, d'électricité. Et d'ailleurs, je vis très bien. Mais par contre, je paye presque plus d'abonnements que de conso. Et je me dis qu'on ne m'encourage pas, en fait.
Merci beaucoup. Merci de ce témoignage. Je retiens que vous faites un peu aussi une différence entre les particuliers, dont on a beaucoup parlé ce soir. On va peut-être parler aussi des industriels et des agriculteurs, peut-être aussi. Chacun prône plus de sobriété. On voit bien qu'on a quand même tous un peu de mal à changer nos habitudes bien ancrées. Est-ce que les industriels, Esther Crozier-Delbourg, ont fait de l'eau un enjeu stratégique ? Est-ce qu'ils l'ont suffisamment fait ?
Oui, alors effectivement, il faut bien revenir à la distinction usage domestique et usage économique. Le plan eau faisait beaucoup, en tout cas mentionnait beaucoup l'usage domestique et c'était dommage et maintenant c'est en train de changer. Oui, alors les industriels et les agriculteurs, il faut bien l'entendre, ils ne peuvent pas vivre sans eau. L'eau est absolument essentielle pour eux et les industriels font beaucoup d'efforts depuis une vingtaine, trentaine d'années parce que de toutes les façons, sans eau, l'usine ne tourne pas. Donc ils sont déjà un peu en avance de phase et ce que je vois à travers mon métier en ce moment, c'est qu'ils sont beaucoup plus en avance parce qu'ils savent que la régulation arrive, un peu comme sur le carbone, le CO2. La régulation est arrivée un jour et ils savent que ça va être pareil. L'Europe est en train de bouger, la France bouge.
On a régulé sur le carbone, pas forcément avec de bonnes conclusions à la fin.
Bien sûr, alors il faut s'inspirer de ce qui a marché et surtout éviter ce qui n'a pas marché, mais c'est vrai que les industriels sont en ordre de marche. Il y en a certains même qui ont mis en place des prix internes de l'eau, c'est-à-dire qu'ils gonflent artificiellement le prix de l'eau qui n'est pas assez cher pour anticiper des problèmes d'absence. Mais bon, quand vous avez un arrêté préfectoral qui vous dit de prélever 30% d'eau en moins, votre usine, elle ferme, elle ne peut pas s'arrêter à hauteur de 30%. Pour les agriculteurs, c'est encore un autre problème, ils ont besoin d'eau désespérément, ils ont des années de plus en plus compliquées. Le problème, c'est qu'on n'a jamais compté réellement l'eau nécessaire pour l'agriculture, et donc on ne sait même pas si on en utilise beaucoup trop, ou si on utilise juste ce qu'il faut, et donc il faut les accompagner. Attention, il ne faut pas leur taper dessus, il faut vraiment les accompagner pour les aider à utiliser juste ce qu'il faut comme eau.
On a quelques minutes encore, de rares minutes. Michael nous appelle du Finistère Nord, Bretagne. Bonsoir Michael.
Oui, bonsoir.
Oui, je vous entends.
Oui, je voulais apporter mon témoignage justement dans ma région là, de Finistère Nord. C'est le pays des légumes, hein, des coopératives agricoles conventionnelles. Avec un usage très répandu des pesticides, des désherbants et des engrais. D'accord. Et il y a des soucis, en fait, au niveau de la qualité des eaux, des cours d'eau. Tous les cours d'eau, des cours d'eau sont pollués, à un point qu'ils sont obligés de faire des captages sur d'autres cours d'eau moins pollués pour envoyer sur les cours d'eau qui sont très pollués et faire descendre les quotas.
Merci, merci Mickaël. On a saisi, il nous reste assez peu de temps, je vais renvoyer votre question à Florence Sabetz qui est hydroclimatologue. La Bretagne, elle résume peut-être tout ce qu'il y a de plus polluant, les agriculteurs évidemment, on va pas se faire des amis peut-être ce soir, mais elle est symbole de quoi cette Bretagne ?
La Bretagne, c'est surtout symbole d'une agriculture très intensive, élevage très intensif, donc beaucoup de rejets.
Et donc les Bretons sont condamnés à garder cette eau dont on doute beaucoup.
Ils ne sont pas condamnés, hein, mais effectivement, il faut pouvoir changer de pratique. Il n'y a pas forcément une grosse, grosse incitation actuellement. Malheureusement, il y a d'autres régions où ils sont beaucoup de polluants aussi, industriels. Et voilà.
Eh bien, merci. Le temps manque pour développer votre cas, Michael, en Finistère Nord. Merci à toutes les deux d'être venues répondre aux auditrices de France Inter. La journée mondiale de l'eau, ce sera demain. On va en reparler d'ailleurs demain sur Inter.